Alors, bon, nous allons continuer cette réunion, cette rencontre autour du théâtre politique en Afrique. Aujourd'hui, le thème de la matinée étant le théâtre de résistance et l'émergence de nouvelles formes performatives en Afrique du Nord et ailleurs. Effectivement, en ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un dramaturge syrien qui était au programme, Saad Al-Awanous, qui est un grand monsieur qui est mort il y a quelques années et sur lequel Omar Amir Alaï a fait un film à la fin de sa vie, justement, un très beau film qu'on a présenté l'année dernière ici à l'amphithéâtre. Juste après la mort de Omar Amir Alaï, pour lui rendre un hommage et à la fois rendre un hommage à Saad Al-Awanous. Et bon, alors je vais passer, pour ne pas perdre de temps, je vais passer la parole à Omar Fertat, qui donc vient de l'université de Bordeaux.
Oui. Donc merci. Donc j'ai changé l'intitulé de ma communication pour coller au plus près de la thématique en fait du colloque. Et donc j'ai intitulé ma communication Scène, Tribune, Tribunal, Théâtre et Politique au Maroc. Donc le théâtre marocain a toujours maintenu un lien ombilical avec la politique. Tantôt il fut tribune pour dénoncer les dérives d'une politique dictatoriale, tantôt il a servi comme moyen de propagande nationaliste pour mobiliser les foules contre l'occupant, ou comme anesthésiant pour endormir une population exploitée et assujettie, et tantôt comme instrument pour fédérer les citoyens autour d'un idéal. Dans notre communication, nous proposons, à travers un voyage dans le temps et dans l'histoire du théâtre marocain, de mettre en lumière et d'examiner les différents genres de relations que le quatrième art et la politique ont entretenues. Et notre voyage commence au XVIIIe siècle, par une forme théâtrale qui s'appelle le psat. Donc le psat, connu sous le nom de forjat le psat, ça veut dire spectacle de le psat, est l'une des formes théâtrales populaires les plus anciennes. D'après les chercheurs marocains, la première représentation a eu lieu au XVIIIe siècle, au sein même du palais du sultan alaouite Mohammed bin Abdullah. À l'origine, le psat fut une grande manifestation festive et populaire qui comprenait plusieurs formes artistique. Elle débutait par le défilé d'un cortège carnavalesque qui regroupait comédiens, chanteurs, danseurs et tous ceux qui allaient donner un spectacle. Abdallah Chakron, dans son livre « À la découverte du théâtre marocain », décrit le déroulement de cette manifestation en ces termes. Je cite « Pendant le jour de l'Ashura, les animateurs de l'Obsat se dirigeaient vers Dar al-Makhzen, où se déroulaient les principales représentations en présence du roi. Les artistes qui formaient le cortège portaient des costumes bigarrés. L'acteur principal mettait sur son visage un masque en feuilles de palmier pour pouvoir raconter en présence du roi, sans aucune honte, toutes les histoires audacieuses et piquantes. Parallèlement, le grand Bouhou, c'est un personnage, avançait à la tête du cortège, revêtu d'une peau de mouton en guise de déguisement, et implorant Dieu avec un long chapelet dont les émaux étaient remplacés par des figues sèches. Quant aux musiciens, ils évoluaient autour du cortège en jouant de leurs instruments. Lorsque les délégations arrivaient au palais, les rythmes fusaient de tous les côtés et les interprètes se mettaient dans la peau de leurs personnages. Cela nous rappelle que ce que la Grèce avait connu durant l'apogée de sa civilisation lorsque Athènes célébrait le culte de Dionysos. Dans une atmosphère festive de kermesse, où mêlant chant et danse, les acteurs parcouraient les rues en toute liberté avant d'arriver au timélé. Ils interpellaient, se lançaient des colibés et se moquaient les uns des autres. Partant de là, le psat est une variante de ces formes grecques, ce qui nous amène à comparer Bouhou au coryphée en tant que chef des comédiens. Quant au chant et au mouvement des acteurs de le psat, ce ne sont qu'une image parfaite du dithyrambe, car comme chez les Grecs, Bouhou, l'acteur principal de cette forme spectaculaire, intervient pour jouer une scène au moment où s'arrête le chant. Donc, fin de la citation. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le point de vue de M. Chakron, qui fait un rapprochement un peu forcé entre le rite dionysiaque et le spectacle carnavalesque de l'Obsat afin de légitimer cette forme théâtrale et signifier que les Marocains ont eux aussi eu des rites spectaculaires à l'instar des autres peuples. À mon avis, on n'a pas besoin de ces arguments ni de ce besoin de légitimation pour qualifier une forme théâtrale de théâtrale. Car le critère grec et ou aristotélicien n'est pas le seul modèle théâtral qu'on a longtemps voulu nous faire croire. Ce qui nous intéresse, notons que ce qui nous intéresse dans ces citations, c'est le fait que le psat fut d'abord une grande manifestation carnavalesque qui regroupait différentes formes spectaculaires, dont certains ont disparu. D'autres sont restés au stade de rite carnavalesque, Bougeloute par exemple, alors que seul le psat a réussi à partir du XVIIIe siècle à évoluer vers une forme théâtrale autonome qui a ses propres codes et ses propres caractéristiques. Certains comparent cette forme à la commedia dell'arte, avec laquelle il a plus d'un point en commun. Le psat se base sur des types de personnages que nous retrouvons dans toutes les pièces, incarnant chacun une valeur morale bien précise. Ainsi, nous trouvons les personnages du chat, qui incarne la force, le courage et l'esprit d'aventure, celui du yahou, le juif symbole de l'hypocrisie, de la malice et de la peur, ainsi que de l'extrême intelligence, celui de Hdiddan, symbole de la vertu et de l'altruisme, représentant toutes les valeurs positives qui font de lui un des personnages les plus aimés par les spectateurs marocains. Cette popularité provient aussi du fait qu'il est le personnage central chargé de transmettre le message, dénonciation d'une injustice, réclamation, etc., au roi. Puis l'ogre, antithèse de Hliden, est le mal incarné et la méchanceté personnifiée. Il sert aussi à désigner implicitement quelques personnalités véreuses ou tyranniques. La pièce de l'Ebsat se présente sous forme de farce courte et amusante, connue sous le nom de Waqia, que nous pouvons traduire par événement ou happening, dont le but premier est la distraction et l'édification. À partir donc du XVIIIe siècle, le psat devient un théâtre satirique et édifiant qui sera souvent utilisé par la population marocaine pour présenter ses doléances au roi ou pour dénoncer une injustice. Quelquefois, les comédiens peuvent même formuler des critiques à l'égard du roi. Je cite Mohamed Chaver qui a travaillé sur cette forme théâtrale. « Si l'un des acteurs porte un masque qui représente un juif et qu'il désire formuler des critiques satiriques contre le roi, il doit cacher son masque avec une assiette en argile ou en raffia. » Fin de la citation. D'aucuns expliquent cette audace de la part des comédiens de l'Ebsat, rarement vus dans les sociétés musulmanes, où le souverain est considéré comme un représentant de Dieu sur terre, par le fait que l'Ebsat fut d'abord une pratique des populations berbères, qui avant l'arrivée de l'islam ne connaissaient pas ce mode de gouvernement où la seule volonté d'un individu, en l'occurrence le sultan, fait foi. L'Ebsat fut l'une des rares pratiques théâtrales qui a connu une certaine institutionnalisation, car, voyant l'intérêt que pouvait représenter ce genre de représentation, les souverains marocains n'ont pas hésité à devenir les premiers mécènes des Mobsetoun. Ce sont les comédiens qui jouent la pièce de l'Ebsat. Les historiens rapportent que le sultan Abdelaziz organisait souvent à l'occasion de quelques fêtes religieuses une sorte de concours où des troupes venues des quatre coins du royaume donnaient des représentations de l'Ebsat dans la grande cour de son palais. Cette époque fut même l'âge d'or du théâtre de l'Ebsat. Ce grand intérêt manifesté par les souverains marocains à l'égard de cette forme théâtrale s'explique par le fait que le psat constituait pour le roi une sorte de thermomètre de la situation économique, politique, sociale et culturelle de la société qu'il gouvernait. Ce théâtre abordait l'injustice dont la population était victime. Mais il n'y a pas que cet aspect qui intéressait les souverains marocains, car ces derniers appréciaient aussi le spectacle humoristique et divertissant qu'offrait ce genre de théâtre, car malgré son caractère militant, il reste d'abord un genre comique très ludique. Hassan El-Mnaei, le doyen des critiques marocains, affirme que les rois du Maroc, après avoir ouvert les portes du palais, de leur palais à Forjat El-Ebsat, se sont souvent adonnés au plaisir de participer au jeu, ce qui est un fait très rare. Comme les comédiens de l'Ebsat dénoncent souvent dans leurs pièces les faits et gestes de personnalités connues et assez influentes, ils recourent à un langage symbolique, plein de métaphores, de jeux de langage, de langue, et de mots à double sens. Quant au vocabulaire utilisé, il est très populaire, voire même vulgaire. Mais il plaît au peuple et amuse les rois. Néanmoins, les comédiens de l'Ebsat ne faisaient pas que dénoncer les injustices et critiquer les notables du pays. Ils savaient aussi rendre hommage à des personnalités dont ils appréciaient les qualités morales pour inciter les gens à suivre leur exemple. Leurs pièces étaient appréciées par les souverains alaouites car leur critique à portée sociale savait aussi être constructive et modérée. Faisons maintenant un saut dans le temps pour arriver aux années 1920. Dès sa naissance, le théâtre marocain moderne, je souligne le mot moderne, fut un théâtre engagé et politique, Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Marocains découvrirent le théâtre dans sa forme occidentale en même temps que la colonisation. Les premières pièces modernes jouées sur le sol marocain furent données par des troupes venues de la métropole pour divertir les soldats et les résidents européens. D'ailleurs, les Marocains ne profitaient que rarement de ces spectacles, puisqu'ils étaient, dans leur grande majorité, excepté quelques notables et collaborateurs, interdits de franchir les portes des salles de théâtre réservées uniquement aux Occidentaux. Quand à partir des années 1920, les troupes orientales, égyptiennes ou tuniso-égyptiennes, sont venues donner des représentations au Maroc et popularisèrent cette nouvelle forme dramatique auprès d'une large frange de la population marocaine, les nationalistes y ont vu un moyen de propagande et de mobilisation, puisque les pièces étaient jouées en langue arabe, symbole de l'unité nationale, et les thèmes traités, surtout ceux puisés dans l'histoire arabo-musulmane, faisaient référence à des épisodes glorieux de l'histoire arabe, servaient magnifiquement leur cause et leur idéologie panarabe. À titre d'exemple, nous pouvons citer la pièce de Salah ad-Din Ayyubi, Saladin, jouée par la Compagnie de la Renaissance arabe. Une troupe composée de comédiens tunisiens et égyptiens, dirigée par Mohamed Azdin al-Masri, dont le héros est Saladin, le guerrier musulman qui chassera les croisés de Jérusalem. La troupe eut un succès tel qu'elle fut invitée par le sultan Moulay Youssef, qui décora le directeur de la troupe d'un wissam royal. Au-delà de l'attirance des Marocains pour une nouvelle forme de divertissement spectaculaire, l'engouement de la population pour les représentations données par cette troupe orientale fut motivé par un sentiment nationaliste et s'explique par des raisons identitaires. En effet, malgré la fascination de l'élite marocaine par les spectacles donnés par les troupes occidentales et sa participation à quelques activités organisées par des associations fondées par des résidents européens, il y avait chez elle un sentiment de malaise qui venait du fait que ces représentations véhiculaient la langue du colonisateur et qu'elles étaient montées et jouées par les concitoyens de ceux qui opprimaient le peuple marocain. Quand pour la première fois une troupe arabo-musulmane arriva au royaume chérifien, les Marocains y virent une occasion inespérée de renouer avec leurs frères orientaux. Ce fut la première fois que le public marocain assistait à des représentations de troupes professionnelles jouées en arabe, langue du Coran et symbole d'une culture. D'ailleurs, la première pièce marocaine jouée par les anciens élèves du lycée Moulay Idriss en 1927 fut sans surprise une reprise de Saladin. Ce genre de pièces historiques, mettant en valeur le passé glorieux de la nation arabe, eut un tel impact sur les Marocains que les spectateurs en réclamèrent d'autres, que les intellectuels exhortèrent les jeunes dramaturges à présenter des spectacles de la même veine. Alors bien sûr, les hommes de théâtre imitèrent ce genre théâtral en rejouant des pièces qui avaient déjà été présentées par les troupes arabes ou en créant des pièces véhiculant les mêmes thèmes historiques, en mettant en valeur des personnalités arabes, musulmanes et marocaines, comme Al-Mansour Dehbi, écrite par Mehdi El-Mnei, où était mis en avant le grand monarque saadien dont le règne a constitué l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du Maroc. D'ailleurs, la plupart des pionniers du théâtre marocain furent des nationalistes qui ont tous œuvré pour la libération de leur pays du joug colonialiste. Certains le payant même de leur propre vie, comme ce fut le cas pour le prolifique et dynamique auteur dramatique Mohamed El-Qurri, qui périt dans les geôles françaises sous la torture en 1937. Soulignant le caractère engagé et militant des premières tentatives théâtrales marocaines, Abdallah Souki écrit dans la revue Souffle, je cite, « Les premières manifestations théâtrales modernes eurent lieu dans les collèges marocains. Des troupes de théâtre dont la plupart des animateurs sont des personnalités politiques en vue aujourd'hui se formèrent. D'autre part, dans les établissements scolaires nationalistes, où se faisait sentir l'influence du renouveau littéraire qui s'opérait au Proche-Orient arabe, commençait à se dessiner un important mouvement animé par des militants esterlaniens et démocrates qui, s'emparant des traductions orientales de Molière, jouaient très peu de théâtre occidental. Ce théâtre qui avait au début des allures de saine distraction d'adolescents tourna bien vite en de véritables manifestations nationalistes. Dernier fait soulignant l'importance du théâtre en tant que moyen de lutte politique et l'implication directe des grands leaders nationalistes marocains qui n'hésitèrent pas à mettre la main à la pâte en s'essayant à l'écriture dramatique. Ainsi, Abdelkhalq Torres, l'un des leaders les plus connus du mouvement nationaliste, écrit une pièce de théâtre, Le Triomphe de la Justice, qui fut l'une des premières pièces éditées au Maroc. Mesurant le danger que peuvent représenter de telles manifestations culturelles, qui se transformaient souvent en messes nationalistes, les autorités françaises réagirent en imposant une censure très stricte. Pour donner une représentation, il fallait avoir un visa de l'administration, qui n'hésita pas à interdire toute représentation dans laquelle elle décelait un discours identitaire ou pro-nationaliste. Citant l'interdiction de Tartuffe, une adaptation de Hassan Touhimi et Mohamed et Mehdi Mnéa en 1927, qui fut interdite par l'administration coloniale qui croyait déceler dans les répliques de Tartuffe une attaque contre les chefs des Zaouias, ce sont les confrères religieuses, qui collaboraient avec elle. Ainsi, ce sont les mêmes autorités qui déclaraient avoir pour mission de civiliser les indigènes marocains et leur faire découvrir les avantages de la civilisation européenne qui ont privé le peuple marocain d'apprécier l'un des chefs-d'œuvre de la littérature européenne. Mais la censure ne découragea guère les jeunes dramaturges marocains qui, pour avoir les autorisations nécessaires, présentaient aux autorités françaises des manuscrits disant épurés et, une fois l'autorisation obtenue, jouaient d'autres textes dont le contenu est quelquefois sensiblement différent du premier texte. En 1944, dans un contexte de guerre mondiale, les autorités françaises condamnèrent les associations marocaines sous prétexte qu'il n'existait aucun statut juridique pour elles. Suite à cette décision qui fut rapidement mise à exécution, plusieurs hommes de théâtre furent emprisonnés et d'autres obligés de quitter leur zone de résidence. Il s'ensuivit pour le théâtre marocain une période chaotique qui dura jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on arrive aux années 1970. Et j'aimerais vous parler du théâtre amateur. Quand on évoque le théâtre amateur marocain, le plus souvent, c'est la période des années 1970 qui vient à l'esprit. Car c'est durant ces années-là que ce théâtre émerge avec force et atteignit son apogée. Cette décennie représente l'une des pages les plus radieuses et les plus riches de l'histoire théâtrale marocaine. Mustapha Al-Qabbaj, l'un des observateurs et témoins privilégiés de cette époque-là, considère que le théâtre amateur marocain est un, je le cite, « un fils illégitime du théâtre marocain car il est né dans la contestation ». En effet, dès sa naissance, comme je viens de le dire, ce théâtre animé par les amateurs fut un théâtre de contestation et d'engagement politique. S'il fut pendant à peu près une quarantaine d'années, du début des années 20 jusqu'à la fin des années 50, une tribune pour mobiliser les foules contre l'occupation française, il devient après l'indépendance du royaume un moyen d'expression artistique pour dénoncer les dérives totalitaires du régime marzénien ou de la monarchie. Car, contrairement à ce qu'espéraient tous les acteurs de la scène marocaine, surtout les amateurs, l'État ne fit aucun effort pour promouvoir le quatrième art. Au contraire, les décisions prises par les responsables de la culture étaient plutôt destinées à stopper toutes les initiatives sérieuses pouvant concourir à l'émergence d'une vraie pratique théâtrale. Ainsi, plusieurs initiatives prometteuses furent sapées. Nous citons à titre d'exemple la dissolution de la troupe Al-Marmoura, qui regroupait les talents les plus confirmés et les plus expérimentés de la scène marocaine. L'arrêt brutal de l'expérience de la troupe avant-gardiste du Petit Masque ou de celle de la première troupe du théâtre universitaire. La fermeture du centre de recherche dramatique, le seul lieu de formation dramatique, ou tout simplement la marginalisation des acteurs du théâtre amateur du fait de la limitation progressive des subventions qui leur étaient allouées. La politique des autorités marocaines consista à encourager un théâtre de divertissement en subventionnant les troupes qui se pliaient à cette exigence. L'émergence puissante de ce mouvement théâtral s'explique par le contexte politico-social particulier qui caractérisa les deux décennies 1960-1970 au Maroc. À l'échelle nationale, cette période a connu une lutte de pouvoir acharnée qui opposa la monarchie au mouvement nationaliste, surtout au parti de l'Union socialiste des forces populaires, né en 1975 d'une scission avec l'Union nationale des forces populaires. Ce parti, comme l'indique son nom, est un mouvement de gauche qui se voulait progressiste, animé par des leaders charismatiques tels Abdelrahim Bouabid, Omar Ben Jelloun ou Mehdi Ben Barka. Il posa de sérieux problèmes à la monarchie marocaine qui riposta violemment, surtout après l'accession de Hassan II au pouvoir et après les deux tentatives de coup d'État. Donc en persécutant les militants et les leaders de ce mouvement. Aujourd'hui encore, l'affaire de l'assassinat tragique de Mehdi Ben Barka, qui n'est toujours pas élucidée, continue à susciter les passions. Ces faits historiques eurent un réel impact sur les Marocains, surtout les intellectuels, la jeunesse instruite, qui s'est investie massivement dans les mouvements associatifs et dans les troupes théâtrales. Certains thèmes liés à ces événements, comme le problème palestinien ou la lutte pour la liberté, ont connu un grand succès, tandis que des courants de pensée comme le marxisme devinrent des références idéologiques incontournables Et nous en trouvons donc des échos dans les spectacles montés par les amateurs sensibles à cette thèse. Le grand succès qu'a connu Bertolt Brecht, par exemple, auprès des amateurs marocains, est dû plus aux positions idéologiques et politiques que ces derniers croyaient déceler dans ces pièces qu'à l'originalité de cette théorie purement théâtrale. Et je cite Ilha Bunkerel, un jeune metteur en scène, l'un des metteurs en scène les plus en vue pendant les années 1970. Donc il dit « Quant à Brecht, il a d'abord concentré toute son énergie pour cristalliser les efforts fournis par les organisations de jeunes et des associations sportives et culturelles et les associations du théâtre amateur. Car on peut considérer qu'il avait tout de même, considérer qu'ils avaient tous le même but, mobiliser politiquement les publics. Ensuite, il se démarqua de la tragédie classique en la considérant comme réactionnaire, car il ne croyait pas à la fatalité, mais à l'histoire où l'homme, quand il prend conscience de son destin, devient le moteur des événements historiques. Brecht a créé une révolution phénoménale dans l'art dramatique moderne, non pas seulement sur le plan formel, mais aussi sur le plan de l'essence. C'est lui qui, à travers son théâtre épique, montra le fossé qui séparait le public des acteurs. » Donc, au travers de ce témoignage intéressant, car il traduit la vision dramatique dominante chez les amateurs des années 70, le jeune metteur en scène insiste beaucoup sur la portée idéologique du théâtre brechtien recourant à un vocabulaire et à des notions marxistes, lutte de classe, mobilisation populaire, etc. Pour contrôler et orienter le théâtre amateur, les autorités marocaines utilisèrent un réseau efficace qui était la Fédération nationale du théâtre amateur. Cette institution fut créée par des amateurs avant d'être directement récupérée par l'État, par l'entremise du ministère de la Jeunesse et des Sports. Car, même si ce sont les amateurs qui avaient élu le bureau de direction, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui finançait la fédération. Cette subvention sera largement utilisée pour faire pression sur les troupes récalcitrantes. L'autre moyen utilisé par les pouvoirs marocains, pour le même but, fut le Festival du théâtre amateur, dont l'organisation revient à la même Fédération nationale du théâtre amateur à partir de 1975. Pour les observateurs avertis de la scène théâtrale marocaine, ce festival fut, dès son apparition, un indicateur très révélateur de l'état de santé du théâtre amateur et des orientations prédominantes du moment. Nous remarquons que jusqu'au 11e festival, les pièces présentées étaient d'une grande originalité, et celles primées méritaient amplement leur récompense. Parmi les pièces primées figurent des créations dramatiques qui firent date dans l'histoire du théâtre marocain. Parmi celles-ci, nous citons « Où est passé le scorpion » de Mohamed Timoun, « Une mort nommée rébellion »,« Crise des chiffres », autant de pièces mises en scène par les meilleurs animateurs du théâtre amateur. Mais à partir du 14e festival qui eut lieu en 1974, session pendant laquelle la pièce « Self Lunja » de Abdelkrim Barchid eut le premier prix, c'est le théâtre cérémonial qui sera consacré comme modèle à suivre pour tous les amateurs espérant décrocher un prix national ou même participer à ce festival. C'est ainsi qu'on assiste à l'entrée en scène du théâtre cérémonial. Comme l'explique le titre que porte cette théorie théâtrale, le spectacle est considéré comme une cérémonie, forme originelle de l'art dramatique, qui, dans le cadre de cette théorie, renvoie aux formes spectaculaires du théâtre marocain, pendant lesquelles les gens célébraient collectivement, dans un élan instinctif, un événement. Abdelkrim Barchid, qui est le chef de file de ce mouvement, affirme, je cite, « La cérémonie est l'un qui se multiplie. C'est le point de départ vers la différence. La différence du théâtre en fonction de la différence des époques, des endroits, des peuples et des classes sociales. Notre théâtre ne peut pas être fondé en dehors de nos données, nous, maintenant, ici. Le groupe cérémonial est né pour devenir un atelier ouvert pour le travail et la recherche, afin de fonder un vrai théâtre arabe. » Le théâtre cérémonial fut habilement récupéré et utilisé par le pouvoir marocain pour freiner l'élan des amateurs et orienter la création théâtrale vers plus de passivité et de formalisme, à l'image du théâtre professionnel. La critique utilisée par les responsables du théâtre marocain, qui consistait à favoriser la pratique de l'emprunt aux textes étrangers, adaptation, traduction, marocanisation, dont les sujets souvent à caractère universel gardaient le spectateur marocain éloigné d'une actualité politique et sociale brûlante, c'est en fait le théâtre pratiqué par les professionnels. Bon, là, on n'a pas le temps de parler du théâtre professionnel, mais c'était vraiment un théâtre récréatif. C'est souvent des traductions, des adaptations de Molière, Marivaux, etc. Donc, même cette politique qui était initiée par l'État, l'État encourageait les gens, les amateurs de théâtre, à emprunter cette voie dramatique, donc commençait à atteindre ses limites. Car les amateurs continuaient certes à utiliser les textes étrangers, mais en changeant de registre. Ce ne fut plus les comédies de Molière ou de Reynard qui eurent leur faveur, mais le théâtre avant-gardiste, existentialiste et épique, où une large place était faite au message politique, dénonciation de l'injustice sociale produite par des classes dirigeantes corrompues et opportunistes, appel à la rébellion contre la fatalité et le déterminisme, autant de sujets qui dérangèrent les autorités marocaines, qui se sentaient directement visées. Youssef Raïhani, un autre jeune dramaturge marocain, dans une interview, il m'a dit, je cite, « La monarchie a toujours tendance à favoriser une unité identitaire pour asseoir sa légitimité et faire en sorte que cette unité se construise autour d'elle. Ainsi, toutes les pièces qui eurent les prix furent des pièces qui s'inspiraient du patrimoine. Jusqu'à 1990, les amateurs désirant participer au festival du théâtre amateur recevaient avec le formulaire, là quand même c'est pas mal, d'inscription, une lettre de Hassan II dans laquelle il incitait les participants à favoriser un théâtre qui mette la lumière sur les traditions marocaines, ce qu'il appela Masrah al-Talq, le théâtre libre. Pour encourager les amateurs à suivre l'exemple de Barshid et de son groupe du théâtre cérémoniel, les autorités marocaines se servirent de la plus importante manifestation théâtrale que connaissait le Maroc, donc le Festival du théâtre amateur. Toutefois, malgré le grand succès que rencontrèrent le théâtre cérémonial et les écrits de Barshid dans le monde arabe, il rencontre encore du succès, surtout dans le pays du Golfe, au niveau national, l'influence resta très limitée. D'après la majorité des observateurs, le théâtre cérémonial n'eut qu'une influence très superficielle sur l'activité dramatique des amateurs. Azdine Bounit, critique universitaire marocain, affirme « Cette activité théorique émanait d'initiatives personnelles au collectif d'un nombre limité d'hommes de théâtre qui sont dans leur majorité des écrivains dramatiques, alors que le reste du corps théâtral refusait catégoriquement cette activité théorique. » Un certain nombre de critiques théâtre issus des milieux universitaires remirent en question l'originalité même et le caractère innovant de la théorie proposée par Barshid, en soulignant, à juste titre d'ailleurs, que malgré sa volonté de marquer une coupure avec le théâtre occidental, le théoricien marocain avait malgré tout eu recours à des concepts élaborés par des hommes du théâtre occidentaux dans la fameuse distanciation brechtienne. Aujourd'hui, ce théâtre a atteint ses limites, surtout avec l'émergence d'une nouvelle génération de praticiens, techniciens, metteurs en scène et scénographes qui ont abordé la création d'une nouvelle manière. Bon, là, on parle des années 90-2000. À travers une nouvelle approche expérimentale, cette génération composée de lauréats de l'ISADAC, donc l'ISADAC c'est l'Institut supérieur des arts dramatiques et d'animation culturelle, et amateurs issus de l'université, a choisi l'audace et l'aventure en se confrontant aux textes théâtraux les plus difficiles et en créant des spectacles originaux qui tendent à l'universalité. Grâce à eux, un autre concept s'est imposé, celui de la dramaturgie. Donc pour conclure, le théâtre en tant qu'art vivant, art de l'éphémère, mais aussi art qui marque les esprits et agit sur la conscience, les sentiments et la raison des spectateurs, a toujours posé problème à l'État ou aux marzins marocains. Pour illustrer cette relation conflictuelle, je citerai l'interdiction de l'une des formes spectaculaires des plus anciennes du Maroc par Hassan II. En effet, il s'agit de Sultan Tolba, le sultan des étudiants, on va traduire ça. Selon l'histoire officielle, cette manifestation carnavalesque, où un étudiant joue le rôle d'un sultan pendant 3 jours, est une récompense que le sultan alaouite, Moulachid, c'est vraiment le fondateur de la dynastie alaouite, a accordé aux étudiants qui l'ont aidé à triompher de son adversaire Ibn Mash'al. Organisée avec l'autorisation du sultan, cette cérémonie burlesque voyez l'intronisation par les étudiants des médressas d'un sultan éphémère avant leur sortie annuelle, qui faisait chaque année une sortie. Aussitôt proclamé, le roi du carnaval s'entourait de son appareil administratif de rigueur, vizir, chambellan, etc. Aidé en cela par le marzin lui-même, qui lui envoyait tenue d'apparat, monture, parasol, escorte. entouré de sa cour, notre sultan des Tolbas, se mettait ensuite à parodier la gestion du pouvoir, levait des impôts, recevait des délégations et des cadeaux farfelus, avant la visite du véritable sultan, qui répondait à sa faveur. Le roi bouffon n'avait plus alors qu'à regagner sa médressa, échappant au boutade de ses anciens sujets. Si les origines de cette fête, comme un geste de remerciement du... expliquent les origines de cette fête comme un geste de remerciement du sultan, Moulayachid à ses anciens camarades de la Qaraouiyin, pour leur rôle dans la lutte contre le tyran Ibn Mash'al, d'autres chercheurs y voient le vestige de rites carnavalesques assimilés par le pouvoir. Après son accession au trône, Hassan II, voyant en cette manifestation un manque de respect, une caricature du pouvoir qu'il incarnait, l'interdit tout simplement. Comme nous l'avons vu depuis l'indépendance, les autorités se sont toujours méfiées de ces intermittents, entre guillemets, du spectacle, difficilement contrôlables et souvent contestataires, en limitant la portée de leur art. Jusqu'aujourd'hui, le théâtre amateur, par exemple, dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, et non pas de celui de la culture, car l'État a toujours voulu classer le quatrième art dans la case divertissement et pas plus. D'ailleurs, les années 90 ont connu une bataille homérique qui a opposé le ministre de la Culture et son homologue de la Jeunesse et des Sports pour savoir qui aurait la tutelle de l'Institut de l'ISADAC, l'Institut supérieur des arts dramatiques et animation culturelle. Et c'est le ministre de la Culture qui remporta la bataille après des années de lutte. D'ailleurs, à ses débuts, l'ISADAC fut lancé sans moyens et sans locaux même. Autre fait traduisant cette méfiance vis-à-vis des arts de spectacle, et je l'ai dit, mais je vais développer juste un petit peu, c'est la troupe de Marmora, l'une des troupes les plus prestigieuses du Maroc qui fut mise en place par André Voisin et Abd Samad Kenfawi et qui représenta le Maroc en 1954 au Festival du Théâtre des Nations à Paris avec un grand succès. Une troupe au sein de laquelle furent formés les plus grands noms du théâtre marocain, ceux qui portent aujourd'hui encore la flamme de cet art. Cette troupe n'a jamais bénéficié d'un statut juridique, tout le long de son histoire. Et Hassan II, prince à l'époque, s'est même opposé à ce qu'on la nomme troupe nationale. Et quand un jour on estima qu'elle fut infiltrée par des éléments perturbateurs qui commençaient à vouloir monter UNESCO et Beckett, elle fut tout simplement dissoute. Pour faire une comparaison, la comparaison a été faite par plusieurs dramaturges marocains, comme si aujourd'hui en France on décide par simple décret de fermer la Comédie française. Les pouvoirs marocains n'ont jamais toléré aucune dérive, outrepassant la mission récréative du théâtre, aujourd'hui encore. Malgré l'ouverture qu'a connue le pays avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, certaines limites restent infranchissables. Citons l'exemple d'Obzez, le comédien Bziz, déjà interdit pendant les années 1970, quand il se produisait en duo avec Baz, cet artiste talentueux, atypique, est aujourd'hui encore, en 2012, interdit de scène. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation qui nous met dans la durée et qui nous permet de comprendre ce qu'est la spécificité du théâtre au Maroc aujourd'hui, mais aussi en relation avec ce que Balandier avait appelé le pouvoir sur scène, dans cet ouvrage justement où il place le bouffon au centre du pouvoir, dans la mesure où c'est l'occasion de se moquer du pouvoir et de décharger, de détourner le mécontentement vers pendant un temps qui est bien délimité. Vers quelques personnes autres que celles qui maîtrisent le pouvoir. Donc maintenant, je passe la parole à Fida Mohsen, qui va nous parler de la plateforme Al-Wassel.
Qui fait partie de la plateforme Al-Wassel, mais qui va parler de Sardar Oudous.
D'accord.
De l'œuvre de Wannous.
Qui a été présentée dans le cadre de cette plateforme à Vitry, c'est ça, non? Bon, allez-y.
Je commence ma mia culpa tout de suite. Parce qu'en fait, j'ai fourni aucune information sur ni qui je suis-je, ni qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Et même jusqu'à hier, je dis à Ramzi, on ne peut pas sortir ce soir parce que je dois aller travailler, préparer, je dois écrire quelque chose. Il me dit, qu'est-ce que tu vas écrire? On va trouver quelque chose. Bon. En fait, je devais remplacer Ramzi, qui est en tournage en Égypte, voilà, qui lui, bien sûr, est le directeur de plateforme Art en Méditerranée, fondateur aussi. Et comme moi, je ne suis pas universitaire, enfin, j'ai fait des études universitaires, moi, que je ne suis pas universitaire, je suis metteur en scène et comédien. Et je travaille sur Saad al-Awanous. Et comme il s'agit de théâtre et politique, je trouvais que voilà, que Wanous est effectivement au cœur de, du sujet. Et que moi, je crois, enfin, c'est la seule chose, enfin, en tout cas, c'est la chose où je peux parler de mieux, c'est Wanous. Du coup, j'ai intitulé ça, mais ce que, en fait, j'y crois. Le théâtre Saad al-Awanous, théâtre de la politisation jusqu'à l'université de théâtre, l'universalité de théâtre. Et là, je raconterai comment elle est passée, effectivement, de la notion de la politisation. C'est-à-dire, en réalité, en plus, ça tombe bien parce que c'est exactement la traduction de l'arabe. C'est attassis, c'est-à-dire politisation, rendre politique. En fait, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est apolitique, je le rends politique. Voilà, pour le mettre en action. Et que je crois qu'à la fin de sa vie, il en est revenu, mais bien sûr, tout en étant politique, mais l'acte est, est complètement différent parce qu'il est intériorisé et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui n'est pas dicté, mais quelque chose qui, est, qui émane de son écriture. Bon, alors vite fait, voilà, j'ai dit que je suis. Je vais raconter, pareil, vite fait, la vie de Wanous. En fait, j'ai remarqué que les orientaux font deux choses, des salam alek et des états, ils racontent leur état d'âme. Et moi, je ne veux pas déroger à ça. En fait, mon état d'âme, je suis très ému, vraiment. Je suis très ému de pouvoir venir parler à des universitaires de Saad al-Awanous. Et parce que j'estime qu'il y a... j'ai remarqué, et vraiment, je trouve que l'Afrique a cette chance d'être étudiée et vraiment et regardée de près par, par l'Europe et par la France. Bon, bien sûr, je pense qu'il y a, il y a cette longue histoire que, qu'on a avec... Moi, je suis franco-syrien, alors je peux dire qu'on a, ça fait 15 ans que je suis ici, qu'on a avec l'Afrique. Mais or, le Moyen-Orient, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être c'est à cause de problèmes enfin, arabo-israéliens, et puis je ne sais pas. Parce que quelqu'un comme Saad al-Awanous, qui n'est vraiment pas du tout connu, pas traduit, enfin c'est traduit, il y a un seul livre dans lequel je ferai des lectures chez Actes Sud. Bon, je trouve que c'est une bonne occasion de réparer cette injustice, enfin, cette injustice, de vous en parler, de vous donner. Et tout ce que je vais faire, en fait, je vais vous donner envie, c'est-à-dire pendant les 25 minutes qui restent, je vais essayer de vous donner envie de découvrir Saad al-Awanous, c'est tout simplement ça. Saad al-Awanous, elle est née en 1941 à le village de Hussein el-Bahr, qui donne sur la mer, à Tartous. Elle a fait à Tartous ses études, son baccalauréat, c'est son bac, et il est parti après en Égypte étudier le journalisme et la littérature. Il est revenu après en Syrie, où il a travaillé comme journaliste littéraire dans Jaridat al-Ma'rifa, al-Safir libanaise, après à Beyrouth et à Thawra. Après, il est parti, et c'est très très important, il est parti en France en 1967. Il est resté deux ans. Ces deux ans, il a vécu et il était présent à l'Odéon, au siège de l'Odéon en 68. Il a interpellé même Malraux, il a même eu une entrevue avec. Il était très proche de Kateb Yassine et de Jean Genet. Saad al-Awanous, pendant sa présence ici en France avec Omar Amir Alaï et d'autres, Farouk Mardambey qui est aujourd'hui le directeur de Simbad chez Actes Sud, c'est quelqu'un qui était boulimique de théâtre. C'est-à-dire vraiment, c'est quelqu'un qui ne passait quasiment pas une soirée sans aller au théâtre. Et c'était à la fois un universitaire, c'est-à-dire quelqu'un, un critique qui prenait de notes et qui écrivait, qui était vraiment quelqu'un qui a écrit beaucoup, et puis en même temps qui s'interrogeait, qui découvrait. Il est revenu en Syrie plein d'enthousiasme en 69 en disant waouh, c'est super, ça a marché, le monde a bougé en France, on va pouvoir essayer de faire quelque chose en Syrie. Il a travaillé pendant jusqu'à 79. Il a travaillé, il a tout fait avec l'État. Il a fait directeur de théâtre de la musique, il était prof conservatoire et directeur de département de théâtre. Il a créé La Vie Théâtrale, c'est un trimestriel sur le théâtre. Il n'a pas fondé le théâtre Cabani qui était fondé avant lui, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui était directeur théâtral Cabani, un des théâtres aussi le plus important, enfin les deux plus importants à Damas. Jusqu'à un moment donné, il est arrivé en 79 à un constat que, en fait, en réalité, qui ramait, enfin, qui pouvait rien faire. Bon, là, je m'arrête à 79 parce qu'il va se taire pendant 10 ans, de 79 à 89. Et ce silence de 10 ans est très important. Et maintenant, je reviens à ce qu'il appelait, lui, en revenant à ce qu'il appelait Attassis. Sadao Anous, comme toute la génération, il le dit avec Omar Amelala, c'est des gens qui ont subi Israël, ils ont subi le conflit. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas vivre normalement comme tous les jeunes du monde parce qu'ils avaient ce problème. Ils étaient très sensibles à ça. Et la défaite de 67, le 5 juin 67, c'est quelque chose qui a marqué, vraiment profondément marqué cette jeunesse avant-gardiste et puis ces intellectuels arabes. Et Anous en a été très marqué. Et il a décidé avec Omar Amelala qu'ils ont le devoir, en fait, d'inculquer la politique, l'acte politique aux gens, à la population, même au recoin, enfin, au village le plus lointain, un village. Voilà. Et lui, il a une théorie, cette théorie de la politisation. Il appelle ça la politisation, c'est-à-dire de créer une conscience politique, d'acquérir, de donner des éléments, des outils politiques aux gens pour qu'ils se rendent compte de leur situation. Et du coup, c'est-à-dire comme Gérard Astor, je crois qu'il a écrit dans le dossier de mon spectacle, il a dit voir, comprendre, agir, enfin voir, se rendre compte, enfin écouter, se rendre compte et agir. Et par exemple, lui, il parle de quelque chose qui appelle le niveau de dialogue. Il dit qu'un spectacle, pour lui, un spectacle, il y a 4 niveaux de dialogue. Et bien sûr, il a toujours milité pour ça. Il dit un premier niveau de dialogue qui est entre les comédiens eux-mêmes. Après, il y a un deuxième niveau de dialogue qui doit être entre le comédien et la salle. Troisième niveau de dialogue qui est très important, c'est entre les spectateurs eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, on se rend compte à un moment donné que nous sommes tous, une centaine ou une cinquantaine ou une 200, enfin, voilà, nous sommes tous ensemble, nous pouvons partager, disons, nous vivons une situation, nous prenons conscience de notre possibilité d'existence collective et de nous mettre en mouvement. Et c'est le quatrième niveau de dialogue chez Anous, c'est de la théorie, hein, le théorisme, c'est entre la salle de théâtre elle-même, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire ce spectacle lui-même, c'est-à-dire scène, salle et la ville. Et lui, il rêvait peut-être que, comme la libération de Belgique est sortie d'un théâtre, qu'à un moment donné, les gens se mettent en mouvement à partir de là. Bon, naturellement, Sadal Anous, il a été... Bon, ce n'est pas des idées qui plaisent. Du coup, il a été combattu, mais il a eu la chance, il a eu une chance. Et c'est pourquoi, parce qu'on s'interroge beaucoup, comment ça se fait? Parce que ce que je veux dire, c'est encore plus grave ce qu'il a écrit par la suite. Encore, bon, bien sûr, il a écrit... Pourquoi Anous a pu écrire? En fait, Anous, il a commencé à écrire avant Assad. Moi, j'aime pas personnellement parler politique politicienne réellement. Mais, et d'ailleurs, je m'interroge des fois, je dis peut-être que Hafez Assad, en venant en 70, peut-être ne voulait pas être le dictateur qu'il est devenu. Bon, mais de toute façon, il a commencé une censure, ce qu'on appelle la censure mahmaliya, censure de velours. C'est-à-dire de rapprocher les intellectuels de lui. Et Sadal Anous, il a été vraiment, disons, il est tombé dans sa cire. Il s'est rapproché de l'État. Du coup, il a été discrédité auprès du peuple. Et puis, il y a une question aussi que j'aime pas parler non plus, dont j'aime pas parler, c'est question religieuse. Parce que Sadal Anous, il est alaouite, comme les Assad. Et 70% des Syriens sont sunnites. Et comme c'est quelqu'un qui était un homme, un avant-gardiste, et il touchait au tabou, on l'a vite taxé. C'est-à-dire, c'est très simplement, c'est quelqu'un qui a été combattu par tout le monde, parce que les islamistes le taxaient d'alaouite voulant faire atteindre au sunnisme, à l'islam, en réalité. Ça, c'est une chose. Les gens de gauche, ils disaient, bon, c'est quelqu'un qui est proche, les gens de gauche, c'est-à-dire les pseudo-oppositions de gauche, ils disaient que c'est quelqu'un qui est proche de l'État. Et puis l'État, de toute façon, elle était bien sûr tout à fait consciente, elle le combattait, mais de manière tout à fait, je dis, c'est de velours, parce qu'ils ne sont jamais voulu ni l'interdire, ni l'emprisonner. Ce qui entretenait en réalité ce mythe que Anous, d'ailleurs moi-même, personnellement, je croyais, quand j'étais en Syrie, je ne l'aimais pas, je n'aimais pas ses œuvres, enfin, je trouvais, vraiment, j'étais quelqu'un qui croyait exactement ce qui se disait, d'où jusqu'à sa mort. Moi, je ne l'ai jamais rencontré tout en partageant le même trottoir, les mêmes cafés, les mêmes lieux, tout ça. Parce que je n'avais pas envie, et puis je trouvais que son théâtre n'était pas important, superficiel, tout ça. Voilà, ce qu'on disait. Puis... Je vais essayer de revenir vers les notes, parce que je me suis dit, sinon j'y arriverai pas. Bon, je vais parler quand même, je m'arrête toujours à 79 parce que c'est très important après. Mais je vais quand même dire qu'au début de sa vie, Sardala Ouanous, il a écrit des pièces, bien sûr, sous l'influence de Sartre, de Camus, de tout ça. Et il était complètement dans le symbolisme. C'est vraiment des pièces absurdes, comme un cadavre sur le trottoir ou comme, j'allais dire en arabe, comme... la tragédie du vendeur de résiné, ou, enfin, des choses comme ça, c'est des petites pièces en un acte qui, moi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. C'est le début de Ouanous. Littéralement parlant et dramaturgiquement parlant, je crois que c'est quelque chose qui est assez faible. C'est intéressant, mais vraiment, c'est sa jeunesse. Il est passé justement après, dans la deuxième période, il est passé, c'est parce qu'il y en a quatre, il est passé dans la deuxième période. Et ça, c'est vraiment avec la Naxa, avec le 5 juin 67, la défaite des Arabes. Il a écrit une fête sur le 5 juin 67. Et là, bien sûr, il traitait effectivement de cette défaite. Et puis là, il a écrit quelques textes comme « Le roi, c'est le roi »,« L'éléphant au roi des temps »,« La tête de Mamelouk Jaber ». La tête de Mamelouk Jaber a été interdite en Syrie. Je n'aurai pas le temps de vous raconter ce que ça raconte. C'est ces pièces, mais c'est très important. Par contre, quand je parle de la politisation, où, voilà, moi je dis par exemple, le roi c'est le roi, moi je l'ai monté il y a quelques années ici à Paris, et il fallait, parce que bon, après la mort de Ouanous, je ne peux pas revenir, c'est-à-dire quand je monte Ouanous, je ne peux pas revenir dans les années 70, dans son esthétique 70, je travaille Ouanous aujourd'hui. Et en réalité, il fallait épurer. Parce qu'il y avait quatre niveaux, je dirais trois ou quatre niveaux d'un travail didactique. D'abord, il y a toujours chez lui, il y a le conteur, parce qu'il le rapproche aussi. Enfin, c'est un autre paire de manches, mais on peut parler de lui. Il a une influence brechtienne, ne serait-ce que l'éloignement, enfin deux choses. Hein, l'éloignement à travers un conteur, il a toujours un conteur. Et la deuxième chose, bien sûr, de traiter de problèmes politiques actuels. Mais en tout cas, il a déjà un conteur. Le conteur, il vous raconte tout. Il vous dit, vous, peuple ignorant, je vous apprends. J'ai le devoir, moi, voilà, bon, enfin, c'est quelqu'un qui était communiste, marxiste, qui ne s'est jamais caché. Je vous apprends, ça c'est une chose. La deuxième chose, dans ces pièces, il y avait toujours le théâtre dans le théâtre. C'était une troupe de théâtre qui veut jouer l'histoire à la rigueur. Alors maintenant, toutes les discussions entre eux aussi, c'est quelque chose de l'ordre didactique. Et dans Le Roi, c'est le roi, c'est encore plus. Il y avait même des pancartes. En fait, ils disent, le roi, c'est le roi, la seule, enfin, entre les scènes, ils portaient des pancartes et ils disaient... le seul moyen de se débarrasser d'un roi, c'est le sang, enfin la révolution. Le roi ne peut pas faire que ça. Donne-moi un sceptre, une couronne, je vous donne un roi. Voilà, c'est ça. Alors vraiment, il était dans ce devoir. Il était dans ce devoir de dire j'apprends, je vous apprends. Vous n'êtes pas capable de comprendre. Bon. Par contre, là, je vais vous raconter l'histoire de réellement, enfin brièvement, l'histoire de le roi, l'éléphant au roi de temps, parce que ça faisait partie, à mon avis, des raisons de son silence pendant 10 ans. C'est l'histoire d'une ville où il y avait un roi qui a un éléphant. Très vite, l'éléphant est passé dans la ville, il cassait tout, il écrasait des gens, tout ça. Et tout le monde ne pouvait rien dire, c'est l'éléphant du roi. À un moment donné, il a tué des enfants, et puis il y a un Zacharia. Un intellectuel, un avant-gardiste, un homme Zacharia qui dit, ah bon, non, c'est pas possible, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Il va réunir les gens, il dit, écoutez les gars, on va aller voir le roi et on va lui dire, c'est pas possible, voilà, votre éléphant, il nous tue. Et en fait, toute la pièce, c'est tout le travail, vraiment tout le processus où Zacharia apprend à ces gens-là comment on va faire ces répétitions. Vraiment, la pièce, c'est une petite introduction et puis la chute à la fin qui est terrible. Mais en tout cas, et tout le travail, il les apprend tous les jours. Et lui, il disait, moi, je vous dis ça, on va se mettre comme ça, on va répéter. Et moi, je dis, l'éléphant au roi de temps. Et vous, vous dites, l'éléphant, il tue, machin. L'éléphant, il les écrase, nos enfants, il détruit nos marchandises. Le roi arrive le jour J, après tout ce temps de travail, tous les jours, il le fait, arrive le jour J. Et ils arrivent. Ils rentrent, déjà quand on rentre le palais, il y a quelque chose. Ils arrivent, tout va bien. Alors, ok, vous avez bien répété. Oui, très bien, nous avons répété. Qu'est-ce que vous allez dire? Ok, on va le faire. Le roi arrive. Oui, mon cher peuple, qu'est-ce que vous voulez dire? Et lui, il leur dit, l'éléphant au roi de temps. L'éléphant au roi de temps. L'éléphant au roi de temps. Et le peuple, il dit, il y a quelqu'un qui dit, votre éléphant, nous sommes venus pour dire que votre éléphant est seul et triste et nous venons vous demander de le marier. Voilà. En fait, pour mieux nous écraser, je crois qu'Ouanous, en 79, il est arrivé à un stade où, disant, en dictant Je ne peux pas politiser les gens en leur disant soyez politiques, faites. Ce n'est pas possible. Et c'est tué pendant 10 ans, exactement. Ces 10 ans, c'est très, très important parce qu'il le passe justement. En fait, mon titre, il est juste. Hein, parce que finalement, du théâtre, de la politisation à l'universalité du théâtre, pendant ces 10 ans, il se tait complètement. Il n'écrit rien, rien du tout. Il écrit pour lui et ses amis, mais il ne le prononce pas à moi.
Comment il s'appelle dans cette pièce de l'éléphant?
L'éléphant au roi des temps. L'éléphant. Oh, voilà, avec un haut chapeau. Oh, roi des temps. Ouais. De toute façon, tout ça, je vous envoie à Wikipédia, enfin, tout ça, je vous envoie à découvrir Wadnous. Mais enfin, vraiment, le but, c'est justement de le faire. Bon, dans ces 10 ans, il a réfléchi et il s'est rendu compte d'une chose très importante. En fait, il est sorti avec des choses importantes. Il est sorti avec un double cancer, il est ici en France, mais ça, c'est en 92. Mais en tout cas, en 89, il a écrit un texte ô combien polémique, c'est, ça s'appelle le viol. Pour moi, ces 10 ans dans lesquels il a réfléchi, l'idée la plus importante, c'est, bah d'ailleurs c'est quelque chose que je crois que j'ai écrit ici dans le texte, parce que je fais un spectacle en fait le 16 novembre sur Salomon, qui s'appelle le livre de Damas et de prophéties, c'est un travail entre un jour de notre temps et le viol. En tout cas, il est sorti d'une idée très importante qui est l'unicité et l'unité de l'homme et la culture humaine. C'est-à-dire, il dit, en fait, la seule opposition possible n'est pas entre les civilisations, comme on prêchait, et n'est pas entre les gens, les ethnies, mais c'est un système, il a compris, il a dit, il y a une seule opposition qui est oppresseur, oppressé, dominant, dominé. Et à partir de là, voilà, il a complètement concentré sur... Voilà, pour lui, l'idée, elle était claire. Et bien sûr, il a réfléchi, ce qui est très, très surprenant, le viol, c'est un texte qui traite du conflit arabo-israélien. Arabo-israélien. Il montre pour la première fois un auteur arabe, il montre un grand auteur arabe qui n'est pas acheté par Israël. Il montre une société israélienne, une société... il complexifie le regard sur la société israélienne. Du coup, la société israélienne devient une société où il y a des hommes, des femmes, des mères, des amants, des histoires. Et puis, en même temps, bien sûr, il y a le pire comme le mieux comme le pire. C'est quelque chose qui était très innovant, parce que vraiment, si je vous raconte ça ici, vous dites, oui, enfin, c'est normal. Pour nous, Israël, c'est un Israélien, pas un juif, même pour nous, c'était vraiment, il y avait une seule, un mur comme ça, monolithique de haine. C'est-à-dire, c'est des monstres, c'est pas des humains, c'est pas des gens. Et dans cette écriture, dans ce texte, en fait, c'est un tableau israélien, un tableau palestinien. Le tableau israélien, il ressemblait plus à de Ibsen, à de Bergman. Et les tableaux palestiniens, c'était tout en slogan. Et là, en fait, c'est la première, parce que son théâtre, à partir de là, il devient effectivement, c'est un théâtre, c'est une dramaturgie très profonde, très complexe. Il introduit Wadnous, et pour moi, c'est ça qui fait de lui, c'est le signe que c'est un grand auteur. Il introduit la nuance et la complexité. On n'est plus dans... Avant, il n'y avait pas des individus dans le théâtre de Wadnous, il y avait des gens représentant une classe, représentant une société, représentant un symbole. À partir de cette période, 89, c'est-à-dire après ces 10 ans de silence, maintenant on a réellement des individus. C'est-à-dire des individus qui sont mus par des passions, des gens complexes, avec des épaisseurs, comme bien sûr, comme tous les bons, les bons théâtres, les bons romans, et c'est un plaisir à le lire. Il a commencé par la société israélienne. Et ça, c'était Abel Arouani, par exemple, qui était une grande amie à lui, c'est une critique égyptienne, un auteur, grand, grand ami à Wadnous, Jawad al-Assadi, le grand metteur en scène irakien, ces gens, un clash. Et il s'est senti très seul, et ça l'a beaucoup, beaucoup attristé, le fait de dire, écoutez, je vais revenir à mes notes parce que c'est important que... je les ai perdues. Parce que... Enfin, on a très peu de temps, mais voilà, je vais essayer. En fait, après sa sortie, je crois que Wadnous, elle avait trois urgences. Wadnous, il a écrit beaucoup le théâtre, il a écrit beaucoup la théorie et la pensée arabe. Alors, la première urgence pour Wadnous, c'était de demander aux Arabes d'écrire leur histoire en tant qu'histoire, c'est-à-dire quelque chose de séculaire. Je ne sais pas si c'est moins juste, je crois. séculaire, et non pas, c'est-à-dire il n'y a pas une sorte de chape comme ça de divinité, où c'est une période, c'est la période de Omar ibn Khattab, ah non, on ne peut pas toucher, c'est un saint homme, c'est la période de ça, ah non, on ne peut pas toucher, c'est un saint homme, et de dire c'est des humains. C'est comme nous, voilà, c'est des gens, c'est une histoire, il faut l'écrire. C'est-à-dire après le viol, où moi, ce matin, j'ai écrit, où dans le viol, il dresse un constat d'espoir possible pour un... pour une probable sortie d'impasse de conflit arabo-israélien, parce que là je vais le citer. Bon, vraiment, je vais revenir un petit peu à me recadrer. Hein. Bon. Il dit, j'ai que 3 minutes. Il me reste que 3 minutes. J'ai parlé plus que monsieur. D'accord.
Non, pas encore. Ça va venir.
Ah bah, en fait, je vous laisse après. Je vous laisse. Bon, alors, lui, il dit du soi-disant éternel conflit arabo-israélien instrumentalisé depuis des décennies pour asservir le peuple arabe et avec le peuple israélien. Wanous dit à la fin de deux commentaires que lui a consacré son ami et grand cinéaste syrien Omar Al-Alaï, nous n'arriverons pas à se sortir de ce pétrin, de cette impasse historique, par une solution militaire, donc par la défaite de l'un des deux camps. L'unique solution pourrait venir d'un changement radical dans les conceptions, dans la manière de penser et dans les structures sociales et politiques de deux camps. Et moi, je dis dans ce dossier, une vision radicale et innovante qui restera après la disparition de Wanous. Lui qui n'a jamais évoqué ouvertement les soulèvements, les insurrections, les révolutions du peuple arabe, mais dont la pensée radicale, courageuse, visionnaire, en pointant la corruption généralisée, l'absence de volonté et l'incapacité de nos gouvernants à nous hisser aux horizons de la liberté, de la prospérité et du développement, préparait le terrain. En fait, je vais conclure, parce que j'avais encore, c'est marrant, que j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais enfin, je ne le dirai pas. Alors, je vais le citer. 3 minutes encore, je peux prendre. Bon, alors... Oh, voilà, c'est ça, sur rituel. Parce que Wanous, en fait, moi, je lirai ce soir du texte de rituel. Ce qui est très important, c'est chez Wanous, à la fin de sa vie, bon, il a bien sûr, j'ai parlé de ça, c'est-à-dire, il y a une pensée, une interrogation active de l'histoire. Il y avait cette histoire de dire, notre conflit avec Israël n'est pas un conflit de Dieu et de prophètes, mais d'hommes, du coup, on peut le régler. À partir du moment où il y a de bonnes volontés de deux côtés, à partir du moment où il y a une complicité, on peut en parler, il y aura peut-être une solution. Et la troisième, c'est l'individu et la masse. Comme nous sommes une société où il n'y a que des masses qui n'existent, l'individu n'existe pas, Al-Massa dans le rituel pour des signes de métamorphose, Al-Massa, cette femme qui devenant prostituée, fait vraiment exploser la société damascène jusqu'à bien sûr sa... Non, enfin, en 3 minutes, je ne vais pas raconter parce que c'est... Voilà, c'est une question... Enfin, il a mis l'individu, voilà, il a mis l'individu au centre, c'est l'individu est devenu épais, est devenu... c'est un être qui est complexe et nuancé. Moi, je trouve vraiment Wanous, c'est pourquoi il n'est plus du tout, du coup, il n'est plus du tout dans la politisation, mais parler d'être peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire même dans les années où lui, à la fin de sa vie, et aujourd'hui, parler d'être et non pas d'avoir, peut-être est un acte... Enfin, c'est pas peut-être, enfin, pour moi, c'est un acte politique. Et je crois, justement, dans des sociétés comme les nôtres aussi, parler d'individu, c'est-à-dire un individu peut exister en dehors de la masse, c'est un acte politique, et en fait, c'est un individu... non pas censé, ni éduqué, mais en tout cas, un individu comme ça, épais, plus un autre, pourrait donner quelque chose. Mais faire avancer les choses. Par contre, je cite Wanous, là, avec quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très vite, c'est une minute. Ce que j'ai cité une fois dans la présentation de saison à Vitry. Bon, Wanous, il dit... qui s'appelle le mot d'action, le mot action. Il dit, j'ai l'ambition de condenser dans le mot, dans l'écriture, le témoignage de tous nos chutes, nos défaites, et ceux de notre société, de les charger d'actions révolutionnaires directes, liées à notre vécu. Peut-être, pour être plus précis, j'avais l'ambition de réaliser le mot d'action, dans lequel se côtoient, se confondent, le rêve de la révolution est l'acte de cette révolution. Le combattant que je voulais être, il n'est finalement qu'un être dont l'acte est fait, dont l'action est faite de mots. Et vraiment, ça, c'était... Merci. Et je fais la lecture, en fait, je lis
tout à l'heure. Voilà, très bien. Merci.